Rockkick.com. Le matin au www.rockkick.com. On s'attend pas.
De 9h à 1h, c'est Wake Up. Wake Up.
Avec Ismaël Trépanier. Et Jonathan Bouchard.
Seconde phrase que j'ai écrite, bien sûr, un autre de mes grands crus. Ça fait combien de temps que t'as pas eu une grosse bite entre les deux cuits?
Je reconnaissais ton style, c'est
pour ça. À partir d'une heure, les gars de Horn Sports prennent les commandes.
Éric Veilleux et Christian Dallaire vous offrent via leurs collaborateurs invités le seul fonds de sport controversé à Québec.
Je lisais Claude Turgeon. Claude Turgeon, je t'explique c'est qui. C'est le relationniste du ProLab de Telford Mines, l'analyste à la radio, et probablement le gars qui a écrit le plus de posts sur les forums internet dans les 3-4 dernières années. Aucune crédibilité!
Puis la musique, rien à voir avec les autres. Look out! Rockkick.com.
Rockkick.com. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission d'enfer. On va tuer quelques élans et on tuera aussi des mangoustes.
Oh yes, midi 17 minutes, vous êtes dans le show nommé Wake Up, le www.rockik.com, live@rockik.com pour nous joindre en studio et live@rockik.com pour nous joindre aussi via Contact MSN. C'est simple, vous insérez le tout dans Contact MSN et vous pouvez dire un petit salut à Johnny Boy qui me transmet des messages et je vais quand même être gentil. Je vais poser vos questions à Madame Anne-Marie Delcamp. Et je ne sais pas si c'est un peu sur le même principe, Madame Delcamp. Vous êtes quelque part sur le continent européen, en direct du Liberté Box, comme super résistant.
Oui.
Ah, quelle semaine extraordinaire.
Plein Alors, de, la question.
Plein de rebondissements. Oui, tout à fait. La question, Jonathan, est-ce que je peux aller dans la messagerie?
Bien sûr.
C'est quoi?
Oui, hein?
Non, elle est pas là, mais tu sais quoi.
OK. Alors, Madame Delcambre, à quand remonte votre dernière baise? Et c'est Jacob qui a signé.
À quand remonte, pardon?
Votre dernière baise.
Pourquoi il me dit ça? C'est-à-dire que... À quand remonte ma dernière baise?
Ouais.
Je vous ai déjà dit que je baisais les textes. Par conséquent, il faut savoir si ce sont les textes ou les hommes dont ils parlent.
Ouais.
Mais il serait tout à fait surpris s'il savait que, précisément, il y a de quoi s'éclater quand on regarde les textes, parce que pour la baise, je vous assure qu'il y en a. Hein. Par exemple, j'ai là devant moi, c'est pas de la baise, c'est on ne parle que du cul et de à la fois, regardez, par exemple, il y a un hadith qui est relaté par Boukhari,
okay.
Et c'est Anas ibn Malik qui le raconte. Il dit, chaque fois que l'envoyé de Dieu, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, devait faire ses besoins naturels, je l'accompagnais ainsi qu'un autre garçon avec un récipient d'eau. Hichem a expliqué que c'était pour qu'il puisse nettoyer les orifices urinaires et anales.
Ok.
Alors vous comprenez que lorsque vous lisez ça à longueur de journée, que vous lisez dans la sourate 2, vos femmes sont un chant pour vous, un chant, vous savez, comme un chant de labour.
Okay.
Allez-y comme vous l'entendez.
Hey.
Baiser. Alors, et en plus que vous avez les commentaires des juristes musulmans, des fuqaha, qui vous disent allez-y comme vous l'entendez, anna shi'tum, c'est-à-dire à la fois par devant, par derrière. Alors je réponds à ce très charmant Jacob. Baiser, quand on fait du droit musulman, on n'est que là-dedans. Le sperme, la baise,
ouais.
quand vous avez baisé, allez vous nettoyer pour les grandes ablutions. Faut dire que là-dessus, ils sont champions.
Ouais.
Alors, on a plutôt envie de ne pas baiser quand on... J'ai demandé un jour à un fils de Mollah, je lui ai dit, vous êtes romantique, c'était un Iranien.
Okay.
Il a dit, romantique ! Vous plaisantez, ma chère amie. Dès qu'on est jeune, on apprend, quand les femmes ont leurs règles, il faut pas y toucher, elles sont impures, quand vous avez... Voilà, c'est que ça. Alors, je réponds à Jacob, quand vous étudiez le droit musulman, eh bien, baiser, vous pensez automatiquement à tous les textes que vous avez lus.
Ok, bon, moi, probablement que ça s'attendait pas à ce genre de réponse.
Ah, parce que je reviens toujours au texte. Vous voyez, jamais personnel, toujours vers les textes.
Alors, vous prenez un certain plaisir, mais non pas charnel, à lire les textes.
Mais bien sûr.
Ah, d'accord.
Pourquoi, vous qui êtes psychologue, Ismaël,
oui.
Vous savez très bien qu'aucune action n'est gratuite.
Et voilà.
Si je me délecte, que je jouis en lisant les textes de droit musulman, c'est que quelque part, ça me fait plaisir.
Parce que
c'est sûr. Par exemple, quand je vois dans le verset, vous aimez beaucoup la sourate 5,
allez-y.
Et vous avez raison. La sourate 5, qui est celle de la table servie, Al-Ma'ida, en arabe, elle a 120 versets, et ça commence par, vers le début, vers les versets 3 ou 4, les interdits alimentaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger de porc, il ne faut pas consommer le sang, etc.
Okay.
Et puis, vous avez les ablutions pour la prière, hein, dans le verset 6. Et là, les ablutions, c'est-à-dire, vous l'avez au-dessous de la ceinture. Et vous savez, pour moi, pourquoi ça m'intéresse. C'est que dans nos campagnes, en France, enfin, c'est peut-être pareil au Canada, en dessous de la ceinture, ça grenouillait autrefois, voyez, c'est-à-dire la jument verte. Si vous lisez un roman qui s'appelle La jument verte, ben, les paysans, ils devaient se laver le kiki, je sais pas moi, une fois tous les, je sais pas combien.
Mais Madame Delcambre, appelons les choses, les choses
ouais.
Exactement comme elles sont. Le kiki,
eh ben, le
kiki,
c'est que
est-ce que c'était le pénis?
Le problème, c'est que les musulmans, je ne connais pas trop ce que font les juifs orthodoxes, mais les musulmans, à force de se tremper le cul dans l'eau, de nettoyer l'anus, de faire les ablutions,
ouais.
C'est vrai qu'ils peuvent justifier cet adage, un adam fatou min al iman, la propreté fait partie de la foi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je regardais, j'ai en face de moi, par exemple, vous devez, j'ai réécouté, parce qu'il faut quand même toujours que vos auditeurs trouvent un intérêt à mon intervention. Et j'ai réécouté tout le récit de M. Pong. Parce que M. Pong disait, j'ai plusieurs musulmans chez Pontiac,
c'est ça.
75 chauffeurs, la plupart ont des cravates vestons, mais il y en a un qui veut porter une robe.
Et
alors, il a dû se demander, le pauvre M. Pong, pourquoi aller à la commission des droits de la personne pour porter une robe.
Une robe.
Bonsoir de bonsoir. Mais si. Parce que vous savez que lorsque vous devez faire vos ablutions avant d'aller à la prière, et la prière musulmane c'est 5 fois par jour, si vous êtes vraiment croyant, eh bien avant il faut que vous laviez, il faut, alors il est dit d'ailleurs dans ce verset 6, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, c'est pas la salade, c'est salade, la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes pollué, c'est-à-dire que vous avez votre caleçon plein de sperme, alors purifiez-vous. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, c'est-à-dire il vient de la toilette, ou si vous avez touché aux femmes, baisé, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à du sable, passez-en sur vos visages et vos mains. Et voilà pourquoi j'explique à M. Pong que la robe est beaucoup plus, et à la robe et les babouches est beaucoup plus pratique pour les ablutions. Parce que votre pantalon, le pantalon, pour faire les ablutions jusque, en quelque sorte, les chevilles, vous allez avoir vos panards tout trempés. En plus, les lacets, il faut les défaire, il faut enlever vos chaussures, il faut, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que la robe, ben, vous soulevez ça, et puis vous faites les ablutions, vous voyez ce que je veux dire? Vous enlevez les babouches, hop, un petit coup, vous les enlevez, un petit coup, vous les remettez. Voilà pourquoi la robe est plus pratique pour les ablutions,
ah.
Et les babouches aussi. Les choses. Alors, ceci pour en revenir à l'entretien de Monsieur Pong.
Oui.
Si effectivement quelqu'un observe tout ce qui est écrit sur les ablutions, sur le nombre de prières, il va islamiser en le voulant ou inconsciemment. Pourquoi? Parce que quand vous voulez, moi je suis pas croyant, je m'en fous.
Non.
Mais le croyant, quand il fait la prière, il fait au nom du Père, du Fils, au Seigneur, fasse que mon ennemi tombe du haut de l'échelle. Il n'a qu'à faire ça comme ça, il le fait n'importe où, dans son lit, dans le métro. Mais pas le musulman. Le musulman, il faut que ça soit à des heures bien précises, avec des formules bien précises. Il faut qu'il se lève quand c'est le matin, il faut qu'il se lave, il faut qu'il mette le tapis de prière en telle direction, il faut qu'il fasse tel mouvement. C'est-à-dire que c'est une notion d'effort. Or, c'est vrai que ça, et en plus, la religion musulmane se pratique publiquement, elle se pratique collectivement, c'est dit dans la sunna, c'est-à-dire la, le récit du comportement du prophète, accrochez-vous tous à la corde d'Allah. Donc, ça se, c'est visible. Et parce que c'est visible, si vous pratiquez la religion, vous islamisez le paysage. Je me fais bien comprendre ?
Oui, tout à fait.
Et c'est pour ça que c'est grave. C'est-à-dire que c'est pas grave au sens, c'est pas l'islamisation, vous allez avoir des musulmans qui vont prendre des bombes et qui vont aller les jeter sur le métro. Non, 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 non. Et c'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé en Belgique, et je tiens à le souligner parce que c'est honteux. La Belgique s'appelle, devrait s'appeler la République islamique.
Mais Eric, mais voyons.
Parce que, et les Wallonies, la République de Wallonie, la République musulmane de Wallonie.
Ah, c'est vrai. Par... Ok, ok, c'est bon.
Vous savez pourquoi ?
Oh, allez-y,
parce
allez-y.
Que... Allô ? Oui ?
Allez-y.
Parce que les Wallons, pour lutter contre les Flamands, ont fait, ont accepté des gens francophones, qui sont en général, qui étaient d'abord, qui furent turcs et ensuite marocains. Il y a des cours de religion dans les écoles, c'est pas exactement le système français. Or, les vrais Belges, se sont aperçus qu'ils allaient être totalement et lentement, mais sûrement, islamisés. Et c'est alors qu'un petit journal, qui s'appelle Père Ubu, a décidé, puisque toute la presse socialo est, vous voyez, c'est-à-dire on ne peut plus trouver d'informations valables, il faut pas attaquer l'un, il faut pas se moquer des gros, il faut pas se moquer des femmes, il faut pas se moquer des homosexuels, il faut pas se moquer des féministes, enfin, on peut se moquer de personnes, sauf du brave belge qui lui va recevoir en plein la poire tout, tout. Alors, il y a eu un petit journal, justement, avec Rudy Bogart, qui s'est dit, mais qui peut nous parler d'islam ? Et ils n'ont pu trouver, comme capable, qu'un père, qui s'appelle, un père venant de Turquie, il s'appelle le père Samuel.
Le père Samuel, bien...
Samuel. Oh, le père Samuel que vous allez avoir sur les ondes 24 et 27...
Ben, j'ai les textes sur lui, là, et
alors,
aussi.
Attendez, le père Samuel, c'est quelqu'un... que moi je m'en fous de son truc. De toute façon, moi, pour moi, toutes les religions sont une manipulation mentale.
Oui.
Mais ce qu'a fait le père Samuel, c'est que c'est quelqu'un qui agit à l'ancienne, la messe en latin, la grande soutane, le crucifix, etc., avec son grand chapeau, c'est un peu folklore, il est même exorciste, ça, c'est rigolo.
C'est
moi,
secte.
Je trouve plutôt marrant.
Ça sent la secte.
Mais d'ailleurs, comme les musulmans ont peur du diable, je trouve ça charmant. Comme ça, il leur fait peur.
Okay.
Ceci dit, ce qui est assez grave, c'est qu'il a dénoncé dans le journal du Père Ubu, et moi, en tant que spécialiste de l'islam, je dis qu'il connaît l'arabe admirablement, il connaît l'arménien, il connaît l'araméen, il connaît le syriaque, il a une bibliothèque incroyable, mais vraiment, c'est un savant.
Avec quel argent ?
Bon, quel âge il est
non,
né
non,
en 44.
Non, Madame Delcam, avec quel argent ?
Ah, alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il a d'abord été rémunéré. Vous savez que les curés sont payés en Belgique. Et puis, il y a les dons des fidèles.
Okay.
Mais moi, je dois dire, c'est vrai que les fidèles, comme des, parfois, vous savez, les chrétiens sont des crétins, ils donnent à leur curé, ça c'est logique. Ça peut dégénérer. Ceci dit, moi, j'ai eu le directeur du journal que j'avais appelé en disant, attention, est-ce que c'est ces gens qui l'adorent, est-ce que ce n'est pas une secte ? Et Monsieur Rudy Bogart m'a dit, je dis toujours au père Samuel, arrêtez de recevoir des gens et de leur donner de l'argent. Il redistribue aux pauvres. Et ce qui s'est passé, c'est que avec sa connaissance de l'arabe, avec sa connaissance de l'islam, et comme il a eu une partie de sa famille massacrée, il a écrit des choses qui ont parfaitement déplu au régime socialo-wallon, là, en Belgique. Et ils ont fait sur lui une émission que j'ai regardée hier. Alors, voilà comment s'est fait cette émission. On l'a présenté comme un charlatan, comme un gourou, comme un manipulateur, comme un obsédé sexuel, comme un... Il manquait plus, on a oublié, il n'avait pas assassiné quelqu'un. Et puis peut-être on aurait pu lui coller un truc sur la pédérastie. Donc on l'a assassiné. Pour éviter de parler du problème réel, à savoir que le père Samuel a dit, accepter l'islam dans un pays, c'est se préparer à mourir sous les bombes pour vos enfants. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le petit Joé à la gare de Belgique. Et on a voulu le faire taire. Et comment le faire taire ? Ben, sa personnalité était suffisamment folklore pour lui boucler, en quelque sorte, pour l'empêcher de parler. Et moi, je dis, je m'en fous de la religion du Père Samuel, et d'ailleurs de la religion des catholiques et protestants et toutes les religions possibles. Je suis athée, agnostique, tout ce que vous voulez. Mais en revanche, là où c'est grave, c'est qu'on n'a pas dit que c'était un savant, que c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement les textes en arabe et en français et qui fait dans le Père Ubu ce que je fais moi ici sur vos, sur votre, bah sur les ondes avec Rocky.com. Et ils l'ont assassiné sur le plan médiatique. Vous savez, ils ont fait ce qui avait été fait pour Maurice Dantec. Ils l'ont interrogé. Le père, évidemment, tout flatté qu'il y ait des journalistes, il a parlé. Comme les gens qui l'entourent, ils sont un peu bébêtes face à lui. Ce qui fait qu'ils l'ont piégé.
Mais là, vous êtes certaine que le père Samuel, on ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a enquêté vraiment sur les véritables...
Alors, je vais vous dire, oui. Le père Samuel a un comportement d'exorciste qui peut le faire assimiler à un comportement de dérive sectaire, puisque tous ses fidèles. Moi, je me porte garant sur ses connaissances concernant l'islam. Un point, c'est tout. Il a eu sa famille massacrée. Et je sais une chose, c'est que quand j'ai interrogé le directeur du journal, Rudy Bogart, lui, il a fait une enquête, il n'avait pas confié son journal à un escroc. Et que s'il y avait le moindre doute que ce bonhomme ait pu faire une escroquerie, je puis vous assurer que Laurette Onkelix, qui est la ministre de la Justice, l'aurait bouclé en 3 temps, 4 mouvements, enfin, voyez, hein, tout de suite. C'est-à-dire, cet homme a un charisme. C'est vrai qu'il fait un peu gourou. Moi, Jésus-Christ, je m'en fous. Moi, c'est parce que c'est son aspect folklore. Qu'il fasse la messe en latin ou en araméen ou en hébreu, je m'en contrefous. Mais dans tous le père Ubu, il a défendu Israël, il a défendu les Juifs, il a dit attention, vous dans un pays vous pouvez recevoir 1000 Chinois, 1000 comment dirais-je, 1000 Japonais, 1000, ce n'est pas la même chose que de recevoir des musulmans. Non pas qu'il soit contre les musulmans, mais lui qui a eu sa famille massacrée par les musulmans, il dit c'est pas les musulmans en eux-mêmes, c'est le fait que l'islam en soi, d'abord on commence par demander d'aller à la mosquée, d'apporter une robe et d'aller faire sa prière, ensuite on demande de manger halal, ensuite on demande, attention, on établit une distinction entre juifs et pas juifs, entre croyants plutôt musulmans et croyants non musulmans, et on avance, et voilà qu'un jour on s'aperçoit, c'est tous ils ont été piégés, tous les juifs qui sont allés dans les pays arabes, ils ont au début trouvé que c'était sans sas la nourriture, merveilleux l'accueil, merveilleux, vous voyez, et puis tout d'un coup, le Coran, vous voyez, ce qui est resté, j'allais presque dire, du non-dit. On n'est pas revenu à notre fameuse sourate 5.
Non,
tout d'un
ça.
Coup, on la relit, et je l'ai devant moi. Voyez, verset 12, Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas respecté l'engagement. Ce sont des porcs, ce sont des singes, nous les avons maudits. L'anahum, nous avons endurci leur cœur. J'alna kouloubahum pasiyatan. Et puis voilà, il y a ceux qui détournent les paroles de leur sens, ils oublient, voyez, regardez, tu ne cesseras de découvrir leur trahison, etc. Et on continue, et on a suscité l'hostilité, et alors tout d'un coup, tous ceux qui ont travaillé dans les pays musulmans, eh bien, ils prennent leur clic et leur claque, ils sont obligés de partir un jour ou l'autre. Et vous regardez, au Yémen, en Tunisie, en Algérie, partout, se produit le même phénomène. Les gens qui sont juifs sont un jour obligés de prendre leurs bagages et de fiche le camp. Et vous voyez par rapport à Israël, mais bonsoir, je leur dis, mais merde, bon Dieu, merde. Le fait d'Israël, en quoi ça peut cristalliser autant de haine? Je viens d'acheter un livre d'un homme qui a refusé de débattre avec moi, avec Finkielkraut.
Qui?
Il s'appelle Mustapha Chérif. Mustapha Chérif, philosophe, islamologue,
ouais.
Qui est invité chez nous au Collège de France. Vous voyez son livre, il commence par parler de Ibn Arabi, vous voyez, le mystique, ensuite, et vous découvrez lentement qu'il parle d'un dialogue entre l'Orient et l'Occident qui ne doit pas rencontrer de fermeture. Et la fermeture, c'est quoi? Eh bien, la fermeture, l'obstacle, c'est évidemment les trithéistes, les andouilles qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, c'est aussi, hélas, et avant tout, c'est Israël, c'est ce sionisme. S'il n'y avait plus ce sionisme, mais comme on vivrait heureux, ça serait une merveilleuse société. Voilà pourquoi je dis que c'est dangereux. Que c'est ce désir d'expansion. Ils entrent dans un pays, et c'est pour ça que j'ai réécouté avec délice l'interview de Monsieur Kong. Je l'ai écouté.
Ben oui.
J'ai dit, cet homme-là, vous savez, le problème de la robe, du vêtement. Il a posé aussi le problème du chien dans un taxi. Mais c'est ce qu'il ne savait pas, Monsieur Kong. C'est qu'il y a un musulman qui est dans son taxi, qui voit arriver un chien, même un petit caniche trop mignon. Il y a la fameuse phrase du prophète, la tatrulul malaika daran fi hakelb, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien, et c'est-à-dire à différents niveaux, et je ne veux pas manger de porc à la cantine, et je ne veux pas boire de l'alcool, et je ne veux pas. Alors, vous comprenez le problème? Moi, je me dis, moi, je suis né en France, vous êtes né au Canada, Ismaël, est-ce que nous allons nous faire lentement islamiser? Parce que dans le Talmud, bonsoir de bonsoir, il y a toujours que la loi du pays l'emporte sur la loi de la Torah. Tandis que je lis, et je l'ai pris pour vous, il y a justement le type là, du Conseil français du culte musulman, j'ai repris la citation, et vous savez leur combat. Eh bien leur combat, il est simple. Leur combat, c'est de faire changer la laïcité. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'il dit... Il dit que, eh bien, après tout, tout ça peut changer, peut évoluer. Ils n'attendent que ça. Et on va lentement, lentement, lentement. C'est-à-dire que, vous voyez, la prétention, la présence, il y a dans... Je ne connais pas l'hébreu, hein, je vous le dis n'importe comment, c'est marqué « Dina de Marhuta Dina ». La loi de l'État prime sur la loi de la Torah. C'est la loi du pays, la loi du pays, c'est la loi qui doit être suivie. Tandis que, qu'est-ce que dit Monsieur Alaoui, qui est un neuropsychologue d'origine marocaine, Fouad Alaoui, dans Libération, daté du 16 octobre 2001, écoutez bien ce qu'il dit, parce que ça vous attend aussi au Canada. De même qu'on demande à l'islam de changer, écoutez bien ça, la laïcité doit changer. Car aujourd'hui, la laïcité ne peut se contenter d'une définition selon laquelle elle cantonne le religieux à la sphère privée.
Okay. Okay.
Le retour du religieux est général et il interroge tout le champ social.
Blame.
Et vous savez ce que je regardais en lisant Mustapha Chérif? Ils utilisent un langage d'intellectuel. Ma parole, pour comprendre, il faut que vous tapiez le cerveau. C'est-à-dire que, vous voyez, ils utilisent, ils habillent leur langage d'un vêtement philosophique, laïque. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, ils commencent et ils disent, mais voyez, nous avons une religion abrahamique, et ça commence. Et vous voyez fleurir les mosquées, vous voyez pousser les mosquées, et vous voyez que lentement, il y a des rayons de produits halal. Et puis vous voyez que les filles ne vont pas aller, or, on refait l'histoire, on supprime un peu toutes les choses qui pourraient choquer la sensibilité musulmane. Moi je dis, il viendra un jour, on entrera dans les musées et on dira, oh là là là, oh là les statues, oh attention les nus. Parce qu'attention, si on a fait ce qu'on a fait au Bouddha de Bamiyan, c'est parce que c'était considéré comme des idoles. Quand il y a des religieux, je dis bien, c'était vrai aussi à l'époque où les catholiques étaient cons et qu'ils ont presque, ils ont supprimé ce qui était parfois des chefs-d'œuvre.
Ben, au même titre, madame
Dalli. Peut être une horreur.
Oui,
Moi, je dis, c'est affreux. Parce que ils sont dans leur monde, dans leur bulle, et ils mènent les gens dans le mur. Enfin, moi, je le dis.
Non, mais regardez, moi, je vous arrête le jour où je trouve que vous allez trop loin, chose qui n'est pas encore arrivée, je vais vous le dire.
Voilà, vous avez raison, arrêtez-moi. Mais pour vous dire, et vous savez pourquoi, alors j'en reviens
parce que vous savez...
Pavel, vous savez ce qu'on a fait à Maurice Dantec? Je vais vous dire pourquoi.
Bah, allez-y.
Pourquoi. Ce n'est pas
avec le forum subversif.
Hein. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, je ne connais que ses écrits.
Okay.
Mais quand j'ai vu, moi, j'étais témoin à la télévision, quand j'ai vu arriver le cacatoès Malek Djebel, comme dit l'autre, bon, bah, là,
attendez, là, Madame Delcam, le cacatoès, là, c'est pas l'oiseau, ça?
Mais bien sûr, c'est le perroquet. Oui, exact, très bon. Moi, je sais pas le faire. Très, très bien. Et alors, vous imaginez, j'ai pensé au choc de Dantec. Je me suis dit, mon Dieu.
Oui.
Vous voyez? Et je dis, c'est cette humiliation que chaque fois que je parle sur les ondes de RadioRockKick.com, je me dis, mon salaud, je venge Maurice Dantec, parce que c'est honteux ce qu'on lui a fait. Et c'est aussi honteux ce qu'on a fait au Père Samuel. Même si le Père Samuel était le dernier des larrons, comme ceux qui ont tous été cités, on n'allait pas à lui faire ce traitement. Je me dis, bon, c'est honteux. Il y a un très bon texte, c'est contraire à la déontologie d'une télévision qui se respecte. On fait voir les prises de vue, on ne coupe pas comme ça, on prévient qui sera là, qui sera présent, et moi je suis scandalisée. Mais je dis bien scandalisée. Et je demande aux gens au Canada de regarder l'émission de Pierre Samuel et de voir combien ça a été truqué. C'est-à-dire, tout a été amené pour ne pas parler de l'islam qui est l'objet de son procès. Et c'est pour ça que je dis, ce sont des salauds, ce sont des gens à gage, des mercenaires à gage, et qui traquent tous les gens qui ne sont pas favorables à la pensée politiquement correcte et religieusement correcte.
Ben, au même titre que dans le fond, l'humoriste Dieudonné qui se lance en politique. Non. C'est pas un gars qu'on a envoyé comme ça, comme par hasard.
Oh, je crois pas du tout que ça soit, justement. Moi, je crois qu'il est poussé.
Ben, mais, hein, c'est évident comme ça.
Ah,
se peut
ben, pas. C'est sûr, on essaie de. Sans être poussé, bien
on,
sûr.
On essaie de virer, de tourner au ridicule un peu l'image
c'est
de
exact.
L'islam pour
c'est
lui
exact.
Donner un air gentil, apaisante, tranquille. Une attitude de clown.
Exact.
Et ça me fait peur parce qu'il y a des crises d'imbéciles. Qui absorbe, font un peu le même principe qu'une éponge, qui se laissent remplir complètement, et après ça, ils font « Merde, qu'est-ce que je viens de faire, t'sais? » Ils sont pas capables de réfléchir, d'analyser, et d'en venir avec une idée. Pourquoi
exact.
Ce gars-là est là?
Mais je crois qu'on empêche les gens de réfléchir aussi. Et avec un gus comme ça, c'est sûr que ça va poser des dégâts. Mais vous savez que nous, en France, on est mal partis, hein? En Belgique, ils sont mal partis. En France, on est mal partis. Vous êtes mieux lotis que nous. Mais,
Non. Si on n'était pas là, Madame Delcamp, puis je veux pas me prendre pour le Dieu, le Père, là. Mais
ouais.
Si Rocket.com n'était pas là, il y a personne qui parle de ça ici. Personne.
C'est pas normal, ça.
Il y a personne qui parle de ça.
Vous réveiller.
Parce que tout le monde, là, ici, là, les gens qui viennent écouter, là, la seule chose qu'on revient à dire, et fréquemment, c'est, vous dites Rocket.com ce que les gens pensent tout bas.
Ah ben voilà.
Dans les médias, il n'y a personne qui parle de ça. On est les seuls. Je trouve ça anormal.
Tout à fait.
D'une certaine façon, c'est pas par vanité, mais tout. On profite de ça, de notre côté. Mais aussi pour réveiller, notre but premier, c'est de réveiller les gens. C'est pour ça que
j'ai... Je ne sais pas si vous avez vu sur le forum LibertyVox, parce qu'il y a ici une radio à Paris, vous le connaissez,
allez-y.
Radio Courtoisie, qui est une radio plutôt...
Qu'est-ce que c'est?
CBG.
C'est quoi ce Radio Courtoisie?
C'est-à-dire que c'est une radio assez, comment dirais-je, assez, une radio où on fait passer beaucoup de musique classique et beaucoup... Non, ne riez pas, chacun a ses goûts, hein. Bon, et le problème, c'est que c'est la seule radio du pays profond qui ose s'exprimer. Attendez, c'est que toutes les radios sont achetées. Attendez, moi je dis, si je suis allée avec le style rockique dans une radio qui est très quand même... bon, il y a des gens qui aiment beaucoup... Ben, c'est quand même... disons une radio, oui, c'est musique classique, concert, bon. Mais ce sont des gens intelligents. Et c'est une autre époque, c'est pas forcément une autre époque, mais c'est une façon de voir les choses et de les entendre. Et moi, j'ai fait devant eux, c'est là où je veux dire qu'ils sont même intelligents. J'ai dit, Rockick.com a l'avantage, c'est d'être une radio super moderne, super jeune, super branchée et qui ne dépend pas d'un gouvernement particulier.
Yes!
C'est la raison. C'est son grand avantage et c'est la raison pour laquelle je me colle à Rockick.com comme une tortue à sa coquille, à sa maison. Non, à sa carapace parce que
j'aime
c'est
ça,
très
hein.
important.
Moi, Madame Delcam, j'adore me faire coller par les femmes, alors j'ai aucun problème avec ça. Mais sérieusement, savez-vous que j'écoute de la musique classique?
Mais je, Mais non, attendez, mais justement, et justement, ce sont...
Et les gens pensent que je suis l'espèce d'imbécile. Ça me fait tellement rire.
Parce que, et vous, vous pensez que Radio Courtoisie, c'est une radio de tapis, ce qui n'est pas non plus entièrement vrai. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas vrai que vous n'écoutez que du rock, et c'est pas vrai qu'eux sont uniquement des papis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est deux mondes qui ne se rencontrent pas forcément tous les jours, mais qui ont en commun un courage énorme d'affronter une pensée qui est une pensée de gens qui se déshabillent, vraiment qui baissent leurs pantalons. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai été fait tous rire, il y avait là des femmes très PCBG, vous savez, c'est-à-dire bon chic, bon genre.
Oui, oui.
Et je leur ai dit, ben c'est vrai, karaoke.com, moi je suis amoureuse d'expressions comme on botte les culs, ou wake-up, réveillez-vous. Et j'ai reçu une charmante lettre d'un monsieur très, très, très gentil, chic, etc., qui m'a dit, je vous ai écouté, et c'est vrai, au fond, pourquoi vous appelez un chat, et vous ne dites, et non pas un félin domestique. Mais un félin domestique.
C'est vrai. Oui.
Non, mais c'est mignon.
Oui.
C'est-à-dire que même maintenant, les gens qui furent autrefois élevés dans une culture très,
puritaine.
On ne dit pas ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, ils disent, il faut gueuler pour se faire entendre, nom de Dieu.
Ouais.
Oh, pardon.
Non, mais pourquoi nom de Dieu? Vous n'êtes pas croyante, quand même.
Non, non, c'est vrai, mais bon, disons que je vais choquer certains.
Parce que comme ce matin, vous savez ce que j'ai fait, j'aime bien un peu chauffer le fer, et puis après ça, un peu, hein, vous savez que ce qu'on peut faire avec les bovins, on estampe le fer rouge et on les marque. Alors,
oui, bien sûr.
Les gens qui pratiquent la religion chrétienne, ben, j'ai tout simplement envoyé une bonne chanson. Est-ce que vous connaissez le groupe de rock AC/DC?
Ça me dit quelque chose,
Ouais, bon, enfin, dis-moi, peut-être que ça manque pas à votre culture, là. C'est vraiment pas important, mais il reste pareil que j'ai dédié une chanson qui s'appelle, vous comprenez l'anglais comme il faut?
Oui.
Highway to Hell, au pape Jean-Paul II.
Ah, ça y va. Oui.
Ben, il y en a qui n'acceptent pas ça. Moi, je trouve qu'à quelque part, il faut sortir un peu du placard, si on veut, au même titre que les homosexuels. À un moment donné, il faut se faire entendre. Et je trouve que notre tremplin, qui est rockick.com, d'une certaine façon, aide à faire ça.
Alors, ce qui est le plus paradoxal, justement, Ismaël, que la Belgique vient d'accepter l'adoption pour les homosexuels, vous voyez, le droit d'adopter des enfants pour les homosexuels, et qu'en même temps, on ne peut, dans ce fichu pays, on ne peut rien dire concernant les textes de l'islam. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler, bon, ça va très loin, permettre aux homosexuels d'adopter des enfants, c'est quand même, ils se veulent quelque part assez libéraux, enfin, entre guillemets. Mais en même temps, rien. Sur l'islam, on ne peut absolument rien dire. Et c'est ça qui me paraît étrange. On peut bouffer, enfin, peut-être pas en Belgique, je ne sais pas en Belgique, mais ce qui est certain, c'est que il y a un problème, il y a un réel problème.
Oui.
Parce que, est-ce que c'est de la peur? Moi, je crois que c'est de la peur. J'ai reçu un coup de téléphone d'une amie, Michel, qui m'a dit, les gens ici, les politiques en France, ils meurent de peur. Ils ont peur, mais peur des musulmans. Vous voyez, peur de ce qui se passe en banlieue, peur qu'ils cassent tout, peur qu'ils montent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très, très peur. Et alors, la dernière des dernières, alors là, là, tenez-vous bien, il faut être assis.
Attention, je suis assis.
On m'a dit que vous avez entendu parler de Messaoud Bourras.
Attendez un instant, je vais m'asseoir.
Oui.
Okay,
pour avoir
parfait.
Intenté une action, il y a quelqu'un, tous les prédicateurs ont des propos antisémites réel, c'est-à-dire, mais ce sont évidemment les textes, tous les textes sont contre les juifs, les textes de l'islam. Alors, il avait gagné en première instance, il a fait appel pour vraiment avoir plus de sécurité, il est condamné, m'a-t-on dit, à quelque chose comme 10 000 euros d'amende et 3 000 euros de dommages intérêts, 13 000 euros
mais...
13 000 euros, je ne sais même pas si en ce moment il travaille. Vous vous rendez compte, il est lessivé, 13 000 euros. S'il a vraiment été condamné à cela, parce que j'ai reçu un mail là avant de prendre la parole sur les ondes, je dis que ce sont des enculés d'avoir fait ça.
Ouais, mais moi aussi, hein. Ce sont des putes. Quoi,
attendez, qu'est-ce qu'a fait Messaoud Bourras? Il a porté, voilà, c'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait un type, Youssen, je sais pas quoi, dont les propos étaient franchement antisémites, négationnistes. Bon. Il a porté plainte, il a eu gain de cause en première instance, et il a fait appel pour mieux... Et voilà qu'il a, qu'il se récolte une amende de 10 000 euros et plus 3 000 euros de dommages intérêts. 13 000 euros pour avoir simplement porté plainte en disant ce sont des propos antisémites. Et c'est vrai, parce que tous les musulmans, disons, intégristes, islamistes, ceux qui appliquent vraiment les textes, eh bien, ils pourraient tous être traînés devant les tribunaux pour propos antisémites. Mais moi, j'ai dit, c'est pas de leur faute, ce sont les textes qui sont comme ça. Et lui, Messaoud Bourras, va être obligé de se saigner. Il va pas s'en relever, ce mec. Pour payer ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, 13 000 euros?
Mon Dieu, attendez un instant. Je pourrais vous le dire, j'ai un site qui le transforme assez rapidement. Est-ce que vous avez 100 Canadiens, à peu près?
Ben, 13... Je connais pas la monnaie canadienne.
Attendez
Je sais que... Bah, est-ce que vous ça va mieux quand c'était en francs français?
Oh non, même pas, attendez. Je vais vous le dire tout de suite. On y va avec ça ici, euro en dollars canadiens.
13 000 euros. 13 000
ouais.
euros.
Ça donne 18 000 dollars canadiens.
Voilà, ça va être ça.
Oui, oui, c'est exactement ça. J'ai un site exprès pour justement
bon,
me
alors,
faire comprendre.
Vous vous rendez compte ça? Ah, moi, si on me fait ça, alors là, si un jour on me fait ça... Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je ne parle que des textes. Alors là, je sors avec un pot de chambre sur la tête et je fais le scandale le plus retentissant de la planète. Non, vous voyez, parce que c'est absolument honteux, ça. C'est honteux. Est-ce que je me fais bien comprendre, là?
Oui.
Et le père Samuel, qui est en procès, risque d'avoir ce genre de... Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, ils ont trouvé un moyen... C'est un peu ce qu'avait dit une fois un juge musulman. Vous savez qu'il était obligé d'être juge, il est rentré chez lui et il a dit à sa fille, « Aujourd'hui, ma fille, ton père a été assassiné sans couteau. » Ça veut dire qu'obligé d'être juge, il allait... Eh bien, voyez, c'est-à-dire que maintenant, parce que quand on est juge, vous savez comment c'est dans les pays musulmans, être juge, ça veut dire que tout le monde va vous attaquer, que vous n'allez jamais avoir de paix, c'est vraiment un assassinat. Eh bien là, maintenant, ils ont trouvé le moyen... On ne va plus vous donner un coup de couteau dans les omoplates, on va vous ruiner. Vous m'écoutez?
C'est
Je trouve ça, c'est un assassinat d'une autre manière.
C'est ça,
c'est une
exactement.
Mort civile, je l'ai dit, une mort financière. Et ça y est, c'est tombé hein, pour Messaoud Bourras. Vous vous rendez compte? Alors, si vous voulez le problème, moi ça m'intéresse parce que c'est ce que nous faisons sur les ondes. Nous dénonçons les textes. Et moi je suis prêt à dénoncer aussi les textes des autres religions puisque j'adore, comme vous, voir gratter et voir toute la connerie humaine. Voir la manipulation mentale que constituent les religions. Mais jamais je n'aurais pu supposer que le pamphlet, le blasphème, l'attaque, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Ça allait entraîner des peines financières de ce type. Alors, vous comprenez que le type qui a vu ce qui est arrivé à Messaoud Bourras, ou le mec de France Éco qui a envoyé des trucs au maire pour leur dire ne construisez pas de modèles, ils vont tous trembler. Pourquoi? Parce que qui accepte aujourd'hui d'être ruiné? Vous accepteriez, vous, qu'on pompe toutes vos économies?
Ben non. Ben non.
Voilà.
Le jour où il y a un mec qui essaie de faire ça, et c'est pas compliqué, moi je règle ça à l'amiable avec mes deux points.
Mais vous comprenez quand c'est devant les tribunaux, ils ont parfaitement... Qu'est-ce qu'ils ont fait chez vous? Ils ont commencé par les tribunaux, vous voyez, de la charia... C'est-à-dire, le problème, ils ont bien vu tout ce que ça pouvait leur permettre...
Attention!
J'entends encore là le monsieur Pong.
Mais attention, oui. Madame Delcambre, hein, Stephen Harper, le premier ministre, là, il a commencé, savez-vous quoi, à leur tomber sur la gueule. Et, ah oui, les Tamouls,
oui.
Premier groupe qui a commencé à faire, justement, étaient au crochet de nos subventions en tant que contribuables pour leur,
oui.
Pour leur religion. Et il a envoyé, justement, c'est parce que c'était déjà un dossier du temps que l'ancien parti qui était le PLC, le Parti libéral canadien,
ils
n'étaient
pas sur la liste.
Mais l'organisme de Radio-Canada, dans le fond, non, en tout cas, anyway, il en reste pas moins qu'ils se sont fait tomber sur la grappe, qu'ils se sont fait ramasser par la GRC.
Voilà. Et
tranquillement, mais sûrement, ils vont se faire défoncer la gueule. Le Parti conservateur qui est là en ce moment a de bonnes bases, de bonnes valeurs, et la démocratie, oui, aucun problème. Mais ils ont, eux, des limites. Le Parti libéral achetait les votes, Madame Delcambre. Ils achetaient des votes. Hey, il y a eu un sale con de député en Ontario qui a méprisé une Japonaise qui est la femme de Jack Layton, NPD. Il a dit, vous savez, les Japonais, En autant qu'on... C'est un peu le même principe que les vers blancs, ça prolifère.
Oh! Wow!
Et c'était... Et savez-vous l'origine de ce gars?
Non.
Député libéral? C'est un musulman.
Oh!
On y a... C'est drôle, les médias n'ont pas parlé pas tout ça. Moi, c'est ancré entre mes deux oreilles. Je remarque à quel point il y a vraiment une... Je sais pas c'est quoi, mais j'ai l'impression que les médias sont... Ils font exprès de fermer leur gueule sur ces trucs qui sont, ma foi, peut-être chatouilleux.
Je vais vous dire quelque chose. Je pense que le prophète de l'islam était très intelligent. Quand, pour s'imposer, il a décidé de faire régner la terreur. Parce que quand vous faites régner la terreur, ben, vous êtes sûr, vous avez tellement terrorisé les gens que personne n'ose plus recommencer. Eh bien, j'ai trouvé sur le site LibertyVox une expression qui va beaucoup vous plaire et vous allez me dire de qui elle est. Le terrorisme est la meilleure arme politique puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur d'une mort soudaine.
Attendez,
la personne a ajouté quelque chose.
Allez-y, dites-le, s'il vous plaît.
Alors, je dis, il y a deux parties. Hein. Le terrorisme est la meilleure arme politique puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur d'une mort soudaine. Et puis ensuite, il y a une autre partie. Répétez un mensonge assez fort et assez longtemps et les gens le croiront.
Merde.
Adolf Hitler.
Oh!
1889-1945.
J'ai pas retenu ma leçon.
Et il y a quelque chose aussi qui est très intéressant. Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Et c'est de George Orwell dans le nom de plume d'Éric Clair. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le problème, c'est que les musulmans fonctionnent exactement comme leurs prophètes. S'ils disent, nous portons un grand coup, parce qu'ils ont voulu montrer à l'Occident que si l'Occident bronchait, eh bien, c'était leurs ambassades qui flambaient, c'était leurs caricaturistes assassinés, c'était c'était Israël boycotté. Faire peur, faire tellement peur que les gens sont dissuadés de recommencer. Et c'est vrai que ça pose pour nous, nous n'avons pas une civilisation de talion, nous, comme des crétins, de chrétiens, on se dit, tu m'as, non, pardon, excuse-moi, prends-moi, etc. Et le problème, c'est que c'est pas du tout ce qu'il faut faire avec eux. C'est-à-dire qu'il faudrait réagir, avoir le courage de dire non. Ça, non. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi ce sont des malins. Parce que la sourate 5, nous n'avons pas beaucoup étudié aujourd'hui, dans les fameux, quand il veut porter la robe, l'andouille, c'est que il est possible, il est permis justement, quand vous êtes à l'étranger ou en voyage, de ne pas pratiquer exactement la religion comme vous le feriez en pays musulman. Et même dans leur truc halal, oh j'ai dit les salauds. Parce que, voyez le problème, les interdits alimentaires vous sont interdits, la chair de porc, le sang, etc., et puis la bête non égorgée, mais le verset 5 ou 7, vous dites la même sourate 5, vous sont permises la nourriture des gens, vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture. Et c'est-à-dire que, et également, dans la fin du verset précédent, il y avait, si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché et qui ne trouve pas de nourriture halal, eh bien, il peut très bien manger ce qu'il trouve normalement. Donc, ils avaient la possibilité, lorsqu'ils ne trouvent pas la nourriture halal, ou lorsqu'ils ne peuvent pas faire, pardon, les 5 prières par jour, ils ont la possibilité de le faire, vous voyez, il y a des possibilités qui leur sont données. Mais pour faire chier, parfois, les peuples chez lesquels ils sont, ils exigent de plus en plus, vous voyez, ils grignotent. C'est oui, ça. Je veux la robe pour conduire le taxi. Oui, je veux la nourriture halal. Alors que, si on regarde le Coran, si on regarde en territoire non musulman, ils ne sont pas obligés de le prendre, de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'énerve. On nous prend vraiment pour les derniers des cons. C'est ça qui me gêne. Il y a normalement des musulmans qui jouent le jeu, c'est-à-dire on n'est pas dans un pays musulman et par conséquent on se comporte correctement. Comme a dit Monsieur Pong, bon, on fait notre travail, hein, on respecte la loi, et puis, un point, c'est tout. On veut s'intégrer, on veut pas de problème. Et puis, il y a ceux qui disent, et si on essayait de se servir des moyens que nous offre il a dit, un État tolérant, par exemple, comme le Québec, et si on essayait, dans cette société de tolérance, d'avoir plus. Et alors, on commence à grignoter, et ça, c'est très mauvais. Et vous savez, le Chinois...
Ou c'est peut-être plutôt humain d'agir ainsi.
Bien sûr, mais c'est nous qui sommes cons, parce que normalement, quand quelqu'un agit ainsi, ouais. Imaginez par exemple, moi je vous dis, vous me dites, je vous accorde tant de temps, et puis j'essaye de dire, oh ouais, mais donnez-moi un petit peu plus de temps, monsieur Ismaël Trépanier, un petit peu plus de temps, je commence, et c'est vous qui dites, non, ça suffit, je vous ai dit tant de temps, arrêtez. Vous voyez, c'est à vous de mettre normalement un frein, et c'est ce à quoi ils s'attendraient, c'est qu'on dise non.
Ben,
mais
Madame
nous, on ne dit pas non. C'est ça le problème. Ils en sont même étonnés. Non, on dit pas non. On dit oui à toutes les revendications, sauf aux revendications, parfois, des pauvres gens de chez nous. Non, c'est vrai, moi j'ai fini par me dire qu'il y a deux poids, deux mesures, et c'est-à-dire, on dit quelque chose contre quelqu'un qui est une minorité, alors là, on va devant les tribunaux. Si j'attaque la grosse majorité, je sais pas, moi, quelqu'un d'extrême droite, alors là, on me dira, vous avez raison, allez-y, tapez dessus.
Madame Delcamp.
C'est ça qui est pas normal.
Madame Delcamp.
Oui.
J'ai pas le choix de vous arrêter. Parce que...
Vous allez m'arrêter?
Ben oui, j'ai pas le choix.
Bien sûr.
J'aimerais bien poursuivre parce que j'ai toujours aimé ce genre débat.
Moi je devais analyser la sourate 5, mais ça sera pour une autre fois.
Ben oui, tout à fait.
Bien sûr.
J'ai été gentil ce coup-ci, je vous ai donné 20 minutes supplémentaires.
C'est bien.
Parce que...
J'ai pas regardé.
Je le sais. Non, mais moi, vous savez comment fonctionne un peu la radio commerciale, ce qui n'est pas le cas de Radio Courtoisie. On fonctionne avec de la publicité. Je vous en ai déjà parlé un peu.
Tout à fait, mais je vous comprends. Non, mais c'est pour ça que moi, je dis, tout ce que vous donnez, c'est un cadeau.
Ben, voilà. le vôtre aussi, c'est un cadeau. Ce que vous faites aussi, c'est un grand cadeau pour l'humanité.
On est en train d'informer la planète.
Voilà.
C'est très joli.
C'est mon mandat. C'est votre mandat. On travaille ensemble. Nous sommes une équipe.
Exact. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais j'en reviens au texte parce que pour moi c'est essentiel de faire comprendre aux gens comment fonctionne le Coran et comment fonctionne tout le système des textes musulmans.
Est-ce qu'on va pouvoir le savoir la semaine prochaine aussi?
Bien sûr.
Ah ben c'est fantastique.
Et bien sûr.
Sur ce,
je que partie remise.
Tout à fait.
Voilà.
Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous
mais
embrasse.
Mais moi aussi.
Et bien sûr, pour faire plaisir à des auditeurs qui me le demandent encore, je vous embrasse partout.
Vous avez raison.
D'accord.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Salut bien. Alors, c'était Madame Anne-Marie Delcambre. Je pense que John, t'as pas le choix.
Ah ouais.
Planchon, il est déjà 1h03.
C'est ça, alors.
Les gars vont me tuer.
Bon, ben, c'est ça. Alors, salut tout le monde.
Bye. À lundi.
Yo.